بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chef président d'Islam, j'ai essayé dans cet enregistrement de répondre à une série de questions qui m'a été posée. Et ce sont des questions récurrentes, parce que ces questions concernent la vie du couple. Voilà pourquoi j'ai essayé de répondre de façon détaillée, afin que tous les mariés puissent tirer des leçons dans cette réponse, ou alors dans ces réponses. Et comme je l'ai toujours dit, je ne me passe pas pour un savant, et je ne suis pas un savant. Mais seulement, nous essayons de jouer le rôle de pont entre les musulmans du commun et les savants. Ça veut dire que nous puisons dans les guides des savants pour informer les croyants de ce qu'ils disent, tout en nous basant comme ce savant, sur les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de commencer, je me refais un petit rappel. À ma propre personne, ainsi qu'à tous les croyants, nous devons savoir que le mariage est un engagement. Le mariage est un engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié d'engagement solennel. C'est l'union la plus intime qui associe les êtres. قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel? Ce que nous voulons ici, c'est qu'on comprenne que le mariage, c'est l'union la plus intime. C'est un engagement solennel. Voilà pourquoi, dans un récit rapporté par Hakim dans son Mustadrak, d'après Anas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: Man razakahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala shatri dinihi falyattaqillaha fi shatri al-baqi. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde une femme pieuse, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait aidé dans la matière de sa religion, alors qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui est de la matière sainte. Ibn Shaqi, dans son Shu'ab, il a rapporté le même récit en disant: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ. Lorsque l'homme se marie, il aura parfait la moitié de sa religion. فَلْيَتَّقِ اللَّهِ النَّصْفَ الْآخَرَ. Alors qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui est de la moitié restante. Ces deux récits ont été jugés bons par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son Sahih al-Tarhib wa al-Tarhib. Donc le mariage est quelque chose de très important dans la vie du croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé sur ce pourquoi il nous a créé. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais pourquoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Allah subhanahu wa ta'ala a créé des modules et nous a prescrit des obligations. Nous a prescrit des choses afin qu'on puisse l'adorer comme il se doit. Parce qu'on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit que lorsqu'on a la paix du cœur. Que lorsqu'on a ce qu'on appelle la tranquillité. Voilà pourquoi, parmi ces modules créés par Allah subhanahu wa ta'ala, on a le mariage. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite, afin qu'on puisse mener afin qu'on puisse vivre, qu'on puisse se doit et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on puisse se doit. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Voilà ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le mariage, pour qu'on vive en tranquillité avec ces femmes. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ça c'est dans Sourate Ar-Rum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le contexte, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces signes. Et à la fin, après avoir cité ces signes, et bien d'autres signes, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَكِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la religion des droitures, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, regardez le lien entre le mariage et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous faire comprendre que si il a rendu le mariage de l'ici, c'est pour qu'on l'adore comme il se doit. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah dit, et recherche à travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la dernière demeure. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ont accordé, nous qui sommes mariés, ce sont ses épouses. Ces épouses font partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a accordés, et nous avons pour obligation de rechercher à travers ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala la dernière demeure. Allah poursuit en disant, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant envers toi. Sois bienfaisant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, envers ces faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Sois bienfaisant envers ces faveurs, envers ta famille, envers tes enfants, envers tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, comme Allah a été bienfaisant envers toi en te l'accordant. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Ne sème pas la corruption sur terre. En transgressant les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime point le corrupteur. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit des devoirs, comme il a prescrit à nos épouses des devoirs. Il nous a imposé ses devoirs et il a prescrit pour nous des droits également. Et de même qu'il a prescrit des droits à nos épouses. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Quant à elles, c'est-à-dire aux femmes mariées, aux épouses, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Donc la prédominance que les hommes, l'autorité que les hommes ont sur les femmes ne veut pas dire qu'ils ne doivent plus s'acquitter de leurs devoirs. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de droits. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. إذا نوت فرتي الله سبحانه وتعالى جي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أكبر. Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah subhanahu wa ta'ala a déposé un grand bien. Subhanallah. Même quand il nous arrive de ne plus aimer, d'avoir de l'aversion envers ces femmes qui nous ont donné ce qu'elles ont de plus cher, nous devons de rester équitables, de nous montrer endurants. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous enjoint d'être patient, d'être endurant, comme nous venons de l'entendre dans le verset. Et méditons bien sur la suite du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا » Et comportez-vous complètement avec elle. Si vous avez de l'aversion envers elle, durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah subhanahu wa ta'ala a déposé un grand bien. Et dans Surat al-Maïd, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhal ladhina amanu kounu qawwamina lillahi shuhada'a bilqisr wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'jiluhu akrabu littaqwa wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amaloun » Oh les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Même si on éprouve de la haine pour quelqu'un, nous devons de rester justes, de rester stricts dans l'accomplissement de nos devoirs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Maintenant, pour revenir à la première question, est-ce qu'il est permis à l'homme de s'éloigner de sa femme sans lui adresser la parole pendant un certain nombre de jours? Yani, est-ce qu'il est permis à l'homme de faire le hajr à sa femme? C'est-à-dire, est-ce qu'il est permis à l'homme de vivre avec sa femme sans communiquer avec cette dernière, sans consommer le mariage, et ce, devant les enfants, l'entourage? La réponse, nous l'avons dans le verset 34 de la sourate Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit « الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تدعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la tradition rapprochée bien sûr, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Subhanallah. Regardez ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que les hommes ont autorité sur les femmes. Parce que ces hommes sont chargés de protéger ces femmes. Ces hommes doivent protéger ces femmes. Ils ont le devoir de procurer du bonheur à ces femmes. Ils doivent dépenser leur bien pour ces femmes. C'est pour ça qu'ils ont autorité sur ces femmes. Et dans la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée aux femmes vertueuses. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. En si Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, donc ce n'est qu'ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte, comme nous allons entendre, au Hajj. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Voilà la première chose. Ce par quoi il faut commencer. C'est l'exhortation, le dialogue. Être sincère et clair dans les propos avec son épouse, lui parler, lui faire des reproches. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِذُوهُنَّ exhortez-les. Ensuite, si l'exhortation ne marche pas, éloignez-vous d'elle dans leur lit. Subhanallah. Méditons bien sur cette position, sur cette précision. Éloignez-vous d'elle dans leur lit. Ça va dire ici que c'est dans la chambre qu'on s'éloigne de la femme. On dort dans la même chambre, sur le même lit. On ne consomme pas le mariage jusqu'à ce qu'elle revienne sur la voie droite, jusqu'à ce qu'elle arrête la désobéissance à son mari. Donc ce n'est que quand la femme est désobéissante envers le mari, et il est à préciser ici que c'est une désobéissance qui ne touche pas la religion, parce que si l'homme demande à sa femme de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ici, la femme doit désobéir à l'homme et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'homme n'a pas le droit de punir la femme dans ce cas, et s'il le fait, il a commis une grave injustice. Donc quand on parle de désobéissance ici, c'est la désobéissance qui n'implique pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette désobéissance devient la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes d'être obéissantes envers leur mari. Donc quand cela arrive, l'homme doit s'éloigner de la femme, mais dans le lit. C'est dans la chambre. Ça ne doit pas se ressentir. Ça ne doit pas se ressentir dans l'entourage pour tout ce que cela peut entraîner comme conséquence au niveau des enfants, des voisins, des co-épouses. C'est pour ça qu'il faut rester équitable. Et si cela ne marche pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wadribuhunna » et « Frappez-les ». Et dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce que c'est que frapper les dans ce verset. Il a dit Barban Rayur Mubarre. Naam, vous devrez les frapper et éviter de blesser la peau ou de toucher le sang. Méditons bien sur cette expression Barban Rayur Mubarre. Les savants disent que c'est frapper quelqu'un sans qu'il ne se blesse au niveau de la peau et sans toucher l'os. Donc cette femme ne doit pas toucher l'os et ne doit pas blesser la peau. Ça veut dire que quoi? C'est une façon de dire à la femme qu'elle a exagéré, de lui montrer que vous êtes en colère. Ce n'est pas yani. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas l'autorisation à l'homme de torturer sa femme, mais d'attirer l'attention de la femme que cette désobéissance l'a mis en colère. Certains savants sont même allés jusqu'à dire que frapper les ici veut dire prendre le siwa. Vous savez ce que c'est que le siwa, qui n'atteint même pas la taille d'un kilo, et de frapper la femme avec. Donc vous voyez que, en fait, le but, c'est pas frapper la personne en tant que telle, mais c'est d'attirer son attention. Parce qu'un homme qui n'a jamais porté main, qui n'a jamais levé main sur sa femme, lorsqu'il prend un soulage pour la frapper, c'est qu'elle va retenir ce que là j'ai fait fort. Parce que je n'ai jamais vu cette personne dans cet état.
Donc le but, c'est pas torturer la femme, c'est la ramener, c'est lui faire comprendre que cette désobéissance a entraîné la colère de son mari, tout simplement. Voilà pourquoi le prophète sallam, dans un autre hadith, dit encore فَلَا تَدْرِبُ الْوَجْهِ وَلَا تَدْرِبُ الْوَجْهِ وَلَا تُقَبِّشُ. Ne frappez pas le visage. Subhanallah. Écoutez comment est-ce que le prophète sallam nous a demandé de frapper. Et malgré ça, il nous dit ne frappez pas le visage. Parce que le visage fait partie des endroits sensibles du corps. Même en frappant légèrement, même avec un bâton, ça peut blesser le visage. Contrairement aux autres parties, les pieds, les fesses, ainsi de suite. Et le monsieur dit, voilà le kabdish. Il n'insulte pas la personne par cette expression. Déjà, le musulman ne doit pas insulter. Mais ici, le professeur l'a précisé parce que, généralement, quand les personnes qui ne savent pas se retenir sont en colère, ils se mettent à insulter leur compagne. Ça dit, voilà le kabdish. C'est-à-dire, même s'il t'arrive d'insulter, et cela ne fait pas partie du comportement du croyant, alors tu dois éviter de la traiter de l'aide. Ou de lui dire, قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكِ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rende l'aide. هَذَا لَا يَجُوزُ. Cela n'est pas permis. Donc voilà le sens de frapper qui a été rapporté dans le verset. Ou alors, qui est venu dans le verset. Ça, c'est pour ce qui est de l'éloignement dans le lit. Quant à la communication, les savants disent que si la femme est têtue, l'homme ne doit pas interrompre la communication au-delà de 3 jours. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique, « La yajouzou » لِمْرِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْكَ ثَلَاثٍ. Il n'est pas permis à celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier de mettre un terme à la communication entre lui et son frère au-delà des 3 jours. Non, si tu es vraiment fâché, si tu penses qu'il a fait quelque chose qui n'est pas normal, qu'il a été injuste envers toi, non, tu as le droit de manifester ce mécontentement, mais cela ne doit pas, en mettant un terme à la communication entre toi et lui, mais cela ne doit pas aller au-delà des 3 jours. Donc, l'homme peut, pour éduquer sa femme, s'éloigner d'elle dans la chambre, interrompre la communication entre elle et lui, et ce, pendant 3 jours. Et après 3 jours, il doit poursuivre la communication et maintenir l'éloignement dans la chambre, si cela est nécessaire. C'est-à-dire, si la femme n'est pas toujours revenue sur le droit chemin, le chemin de l'obéissance. Ça, tout ça, c'est si la femme est désobéissante. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « فَإِنْ أَفَعَنَا لَكُمْ فَإِنْ أَفَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. » Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Il n'est pas permis aux croyants de chercher des voies contre sa femme si sa femme est obéissante. Ou si sa femme a désobéi et pas la suit, elle est revenue. Donc une femme qui désobéit à son mari et se répand par la suite, ce dernier n'a pas le droit de chercher contre elle le devoir. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elle, car Allah est certes haut et grand. C'est-à-dire, si tu continues à être injuste envers une femme obéissante, une femme vertueuse, Alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est haut et grand, il est plus haut que toi et plus grand que toi. Si tu te permets d'être injuste envers cette faible créature, parce que tu es fort, parce que tu es au-dessus d'elle, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toi. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toi et qu'il peut te frapper à tout moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et ne fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Maintenant, si tout ceci ne marche pas entre les deux époux, doivent-ils faire recours au divorce? Non. Ils doivent essayer par d'autres voies. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Donc ça veut dire que le divorce en islam n'est que le dernier coup. C'est quand tous les voies n'ont pas marché. Voilà pourquoi Allah dit, dans la tradition rapprochée bien sûr, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux époux veulent de la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Donc ça veut dire que si toutes les tentations ou toutes les tentatives échouent, si l'homme ne se comporte pas comme il se doit, si la femme ne revient pas, alors ici, ils doivent faire appel à un aux arbitres. Ils peuvent faire appel à cet arbitre, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les arbitres de leur famille, comme ils peuvent se confier à un cher de confiance, un cher digne de confiance, afin qu'ils essayent de leur proposer des solutions, qu'ils les exhortent à revenir sur le droit chemin. Et si tout ceci ne marche pas, alors ce n'est qu'en ce moment, si la vie devient impossible, s'ils ne peuvent plus obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ne peuvent plus vivre comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, alors en ce moment, ils peuvent faire recours au divorce. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Et il faut savoir que quand on parle du divorce en islam, ce n'est pas ce que nous voyons là. Le divorce, ce n'est pas la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le divorce et nous a défini ce que c'est que ce divorce et comment est-ce qu'il doit se passer. Qala Allah ta'ala, comme nous l'avons dit, at-talaqu marratan. Dans la tradition rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le divorce est permis pour seulement deux fois. Parce que quand tu divorces ta femme pour la troisième fois, alors cette femme te devient illicite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme et que ce dernier consomme le mariage. S'il ne se fait pas en ce moment, cette femme est illicite, tu peux encore l'épouser. Mais quand ce n'est que deux fois, elle peut revenir. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, ce soir, la reprise conformément à la bienséance. Parce que c'est ça. Yani, quand une personne a divorcé de sa femme, quand les deux se sont séparés, si la femme doit revenir, ça doit être conformément à la bienséance. Ils doivent revenir pour vivre dans la tranquillité et se soumettre aux injonctions divines. Alors, ce soit la réponse conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Voilà le divorce prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soit la réponse conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. C'est pas la guerre que nous faisons. Parce que la guerre ne fait du bien à personne. Ni à nous-mêmes, ni à nos enfants. C'est pour ça que les croyants, même quand ils doivent se divorcer, même quand ils doivent se séparer, ça doit être de façon convenable et dans la gentillesse, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et Allah dit, il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, c'est-à-dire aux femmes, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Voilà la cause du divorce en islam. Quand on craint de ne plus pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah, de ne plus vivre selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Yani, la femme demande le divorce, ce qu'on appelle al-hula. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont des injustes. Donc, le divorce en islam, comme nous avons dit, n'est qu'un dernier recours. Lorsque toutes les tentatives de réconciliation, du vivre ensemble, échouent. Et comme nous avons dit, le divorce en islam, ce n'est pas la guerre. Et ça suit un certain nombre de principes, c'est-à-dire le divorce se fait selon un certain nombre de principes établis par Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الله أكبر فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فلا لكم أن تعبد الله سبحانه وتعالى أسألك إخوة الله وجود الجمال جميل Dans la tradition approchée des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô prophète, quand vous réfugiez les femmes, c'est-à-dire quand vous divorcez avec vos femmes, quand vous réfugiez les femmes, réfugiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période et craignez Allah, votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Yani, subhanallah, crains Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux vraiment te séparer de ta femme, emprunte le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu ne sais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala suscitera d'ici là. Wallahi, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala suscite. Un amour sincère dans vos cœurs, une miséricorde qui vous enveloppe et vous permet de vivre ensemble aussi longtemps que vous vivez c'était, que vous voulez c'était. Voilà pourquoi nous devons suivre le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que nous bénéficions de ces miséricordes divines. Dans le deuxième verset, Allah dit, puis quand elles atteignent le terme prescrit. Lorsque l'idée finit, Allah dit, retenez-les de façon convenable. C'est-à-dire, vous pouvez les reprendre, vous pouvez reprendre votre femme et annuler la séparation. Non. En les reprenant, ou séparez-vous d'elles de façon convenable. C'est pas la guerre. Si vous devez vous séparer, que ce soit de façon convenable. Voilà la séparation acceptée, prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala, acceptée par Allah. Famsikouhunna bima'ruf, oparikouhunna bima'ruf. C'est comme ça que nous devons vivre avec nos épouses. séparer vos dettes de façon convenable pour traîner. Naam, naam. Séparer vos dettes de façon convenable. Vous reprenez-les. Naam. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. Retenez-les de façon convenable ou séparez-vous de façon convenable. Et prenez Dieu comme interdit parmi vous comme témoin et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Donc, voilà ce que c'est que le divorce en islam. Maintenant, pour revenir à une autre question qui est, à quelle période, lorsque l'homme s'éloigne de sa femme, se déclenche automatiquement et annule la séparation du divorce, qui est appelé dans le fiqh al-ila. C'est après 4 mois. Lorsque une personne s'éloigne de sa femme obéissante, qui n'a rien fait pour mériter cet éloignement pendant 4 mois, alors après ces 4 mois, s'il ne reprend pas sa femme en consommant le mariage, alors le processus du divorce est déclenché automatiquement. S'il y a un juge, par exemple, si nous vivons dans un pays islamique, la femme doit se rapprocher auprès d'un juge et le juge doit la divorcer de cet homme. Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Surat 226-227 de la Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme. Et les savants disent ici que même si la personne qui a abandonné la consommation du mariage pendant 4 mois n'a pas prêté ce serment, il a la même sentence que celui qui a prêté serment, parce qu'en fait, c'est le même, le résultat, c'est la même chose. Le résultat, c'est le même. Donc, celui qui a prêté serment et celui qui ne prête pas serment, mais qui agit de la même façon, a le même jugement. Car Allah dit, pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'atteinte de 4 mois. Et s'il revient, c'est-à-dire après, de leur serment, après ces 4 mois, c'est lui qui sera annulé. Car Allah essaie de pardonner et miséricordieux. Et méditons bien, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Non, cela sous-entend que ce qu'il a fait n'est pas normal et c'est un péché. Mais s'il revient et se répand, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne et annule son serment et sa femme lui est permise. Alors, et sa femme lui est. Non, lui est permise. Mais s'il se décide au divorce, c'est-à-dire que si après 4 mois il continue, ce qu'il a décidé du divorce, donc celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. Donc voilà pour répondre à la deuxième question ou à la troisième question. Quant à la question concernant la garde des enfants après le divorce, nous disons que les savants sont unanimes que la femme est plus en droit d'avoir la garde des enfants lorsque ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge du discernement. C'est généralement 7 ans. Parce que l'enfant, dans cette période, dans cet intervalle, a besoin de l'amour maternel. Il a besoin d'un entretien qu'en général ne peut donner cet entretien à l'enfant que la mère. Donc voilà pourquoi, pendant la période comprise entre les premiers mois de la naissance et l'âge du discernement, c'est la femme qui est plus en droit d'avoir la garde des enfants. Et يدل على هذا parmi les choses ou alors parmi les preuves qui يعني, soutiennent cette position sur le hadith d'Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما أن امرأة قالت qu'une femme a dit يا رسول الله هو prophète d'Allah هو envoyé d'Allah إن ابني هذا كان بطني له وياء ce fils que vous voyez mon ventre était pour lui un récipient. Yani, une couveuse. Mon ventre était pour lui une couveuse, une protection. وَثَدِي لَهُ سِقَار et mon sein était pour lui une abreuvation. وَحِجْرِ لَهُ حِوَار et ma maison était pour lui un habitat. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي mais cependant, son père m'a divorcé, m'a répudié. وَأَرَادَ أَنْ يَمْتَزِئَهُ مِنِّي et il a voulu le récupérer, me le soutirer. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم lui a donc dit أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِهِ tu es plus en droit de le garder jusqu'à ce que tu te maries. Donc quand la femme se marie, alors à ce moment, celui qui est plus en droit d'avoir la garde des enfants, même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, c'est le père. Parce que quand la femme se marie, naam, le plus souvent, elle est occupée par l'entretien de son mariage, de son nouveau mariage. Et ce qui lui empêche parfois, ce qui lui empêche souvent parfois, de se concentrer dans l'éducation de ses enfants, dans l'entretien de ses enfants. Mais il faut savoir que même quand c'est la mère qui garde les enfants, le parent, c'est-à-dire le père des enfants, a pour obligation, et c'est à l'unanimité des savants, de subvenir aux besoins de ses enfants. L'homme a pour obligation de subvenir aux besoins de ses enfants. Même si leur mère est divorcée, et même si c'est leur mère qui, c'est à elle qui revient la garde des enfants. Et quand on parle des besoins ici, cela implique l'habitation. Hein? Il doit se charger de trouver ou alors de payer le loyer s'il vit dans une maison à louer. Il doit les nourrir, il doit les habiller, il doit assurer leur éducation si c'est payante. Il doit également s'occuper de leur santé, ainsi de suite. Donc, voilà pour répondre à la question de Al-Habana, la garde des enfants. Il convient également de rappeler ici que s'il y a parmi ces enfants un enfant qui allait encore, alors les savants ont dit à l'unanimité qu'il est permis à la femme de demander un salaire pour cela. Elle peut demander un salaire au père de l'enfant pour l'allaitement. Donc, l'homme doit se charger de sa progéniture, doit subvenir aux besoins de sa progéniture en fonction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ. Ça c'est dans Sourate Al-Talaq, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Donc, la dépense doit se dépendre, cette dépense doit se faire en fonction des moyens du père des enfants. Si c'est quelqu'un qui a Yani qui se fait un opulent, alors il doit dépenser en fonction de son opulent. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont le bien sont, dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne, n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné, et Allah subhanahu wa ta'ala fera succéder l'aisance par la gêne. Une dernière précision importante, les savants ont également dit que si celui à qui la dade revient après le divorce, c'est-à-dire par exemple, si l'homme se sépare de la femme, après que les enfants ont déjà atteint l'âge de la maturité ici, celui qui est plus en droit d'avoir la garde des enfants, c'est le père. Mais si les enfants n'ont pas encore atteint l'âge du discernement, c'est lui ou celle qui est plus en droit d'avoir la garde des enfants, c'est la mère. Mais toutefois, les savants ont dit que s'il est établi que celui à qui la garde des enfants revient est incapable d'assurer cette garde, alors que la garde soit transférée à l'autre partie. Donc s'il est établi que la femme ne prend pas, ne garde pas les enfants comme il se doit, néglige les enfants, ne leur donne pas l'éducation qu'il faut, alors ici, la garde doit être transférée au père. Pareil pour le père. S'il est établi que le père est incapable de garder les enfants comme il se doit, alors la garde doit être transférée à la femme. Donc voilà, pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur concernant la vie de couple. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.